Vous écoutez RTL. RTL.
Vous avez récupéré les cassettes de Cabirol ?
Je m'en avais chargé, mais j'ai pas eu le temps.
Vous avez payé combien à faire ce boulot ?
Un maximum.
La curiosité est un vilain défaut.
Cabirol était mêlé au chantage ?
Il en était victime aussi, comme vous. C'est pour ça qu'il m'a engagé.
Si je repense son affaire, vous acceptez ?
Vous voulez dire le contrat ?
Oui.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les détectives privés, c'est une profession qui nous fascine, qui inspire les romanciers, les réalisateurs de films. On vient d'entendre un extrait de Nestor Burma avec Guy Marchand. Évidemment, profession mystérieuse, peut-être dangereuse. Notre invité est un ancien policier devenu détective il y a 7 ans. Bonsoir Jean-Louis Viau.
Bonsoir Sidonie, bonsoir Thomas.
Bienvenue, bonsoir. On va expliquer comment vous êtes devenu détective privé. Pour commencer, racontez-nous l'une de vos enquêtes marquantes, peut-être la plus marquante, je ne sais pas. Un jour, une famille vous contacte pour retrouver leur fils disparu en mer au large de la Corse. Depuis quand il était porté disparu ?
Oui Thomas, bon, effectivement, une affaire dramatique qui commence. Et alors bon, pourquoi marquante ? Parce que peut-être que c'était la première affaire d'ailleurs que j'avais en tant que détective en 2008. Une affaire marquante du fait de son contexte, de son climat. Ça se passe en Corse. On peut imaginer avec ce climat un peu particulier. Bon, et puis c'est une affaire dramatique où il s'agit de la disparition d'un jeune homme disparu une dizaine d'années avant. Un jeune homme qui était un grand sportif puisqu'il était un moniteur chevronné en matière de plongée sous-marine et qui malgré ça, sa disparition a été considérée comme un suicide dans la Méditerranée.
Et les parents veulent pas y croire, c'est
alors
ça
c'est ça. Bon, les parents ne veulent pas y croire. Pourquoi ? Bon, pour des tas de raisons. Me demandent de faire une enquête complémentaire, ou je dirais pas une contre-enquête, une enquête complémentaire, puisque les services officiels avaient conclu au suicide. Et bon,
ça vous mène où cette enquête, hein?
Alors cette enquête me mène d'abord en Corse, évidemment. Mm-hmm. Et puis à côtoyer tous les gens des professionnels de la plongée, ce qui était aussi la découverte d'un monde un peu particulier. À recueillir un tas de témoignages, de démarches sur place.
Jean-Louis Viau, ça veut dire qu'à un moment, vous comprenez, vous, le détective privé, vous comprenez ce qui s'est passé dans cette affaire ?
Alors, au départ, il y a toujours... on peut toujours supposer que si on est sollicité, c'est qu'il peut y avoir quelque chose derrière à trouver. Et donc, pourquoi pas ? C'est pas parce qu'une enquête officielle conclut à un suicide, par exemple, en l'occurrence, dans cette affaire, qu'on doit aussi fermer les portes et puis ne plus s'y intéresser.
Alors justement, est-ce que vous trouvez, même si vous pouvez pas nous dire ce que vous avez découvert, mais est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez répondre à ces parents qui ne comprennent pas pourquoi leur fils a disparu ?
Voilà, tout à fait. Bon, alors après, c'est un faisceau. Il est évident qu'il n'y a pas de preuve matérielle. Il y a pas de preuve matérielle dans le sens où déjà le corps n'a jamais été retrouvé. Mmh. C'est encore une fois un suicide dans la mer, alors que c'est un plongeur chevronné. Ça paraît étrange. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure donc de l'approche du personnage que je découvre aussi au fur et à mesure de l'enquête.
Est-ce que vous enquêtez psychologie sur la victime finalement aussi ?
Sur la victime, bien sûr, sur l'aspect psychologique de la victime. Et je me rends compte peu à peu, avec tous les moyens que je pouvais avoir à ma disposition, jusqu'à faire intervenir sur des écrits de cette victime que j'avais récupéré, une psychologue chevronnée parisienne qui mm-hmm. écrit également tous les ans, qui sort un bouquin tous les ans et qui est...
Mais qu'est-ce qu'elle dit alors de cette écriture ?
On en déduit une chose, c'est que ce garçon, en fait, tout le monde a certainement vu le film, le fameux film Le Grand Bleu, le syndrome de la mer. Pour lui, en fait, la conclusion, c'est que
Il a voulu imiter Jean-Marc Barre en quelque sorte.
Il s'en va dans la mer.
Le personnage de
Jean-Marc
Barre.
Voilà, oui, c'est un peu ça. Il s'en va dans la mer, un petit peu comme effectivement dans Le Grand Bleu, où il retourne au sein de son élément qu'il n'arrêtait pas. Il était fasciné par la mer, par etc.
Et quand vous arrivez à la fin de cette enquête pour dire aux parents, vous êtes un peu un porteur d'espoir dans un cas comme celui-là.
Tout à fait.
Jean-Louis Viau, comme détective privé, donc vous revenez en disant, écoutez, après enquête, je crois que votre fils
voilà.
Est suicidé.
Alors, comment il reste toujours ils réagissent évidemment devant alors après je peux pas être dans la peau des gens évidemment, est-ce qu'ils y croient vraiment encore, est-ce que je sais pas, mais inévitablement, je ne pouvais pas leur dire. Et évidemment, j'aurais préféré retrouver ce garçon en vie quelque part. Bon, c'est certain. Mais ça n'a pas été le cas. Et bon, à 90% de probabilité, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, après, c'était un petit peu... Alors, en plus de cela, si vous voulez, c'est que l'enquête aussi sert à essayer de savoir le pourquoi. Qu'un jeune homme qui a tout pour et en plus qui finit dans l'élément qu'il vénère, la mer, etc., qui plus est, bon, un plongeur chevronné qui se suicide dans l'eau de mer, c'est que bon, il y a quand même l'instinct de survie. Bon, on peut penser qu'il aurait pu, bon, au dernier moment, essayer de s'en sortir, etc. En fait, tout était préparé, et en fait l'enquête après prend une orientation d'ordre psychologique.
C'est-à-dire que vous devez raconter une histoire aux parents, l'histoire des derniers instants.
C'est pas raconter une histoire, c'est que je leur dis tout ce que j'ai pu récolter comme éléments, et tout ce que toutes les personnes, les professionnels que j'ai pu interroger à ce sujet-là, leurs sentiments sur à travers tous les éléments que je pouvais avoir, et ce qui fait que voilà, on en termine avec une affaire qui malheureusement reste dramatique.
Jean-Louis Viau, vous étiez un flic, un policier avant d'être détective privé. C'est-à-dire que vous êtes allé jusqu'à la retraite, et c'est à la retraite que vous avez décidé de devenir détective privé. Pourquoi ?
Alors, tout à fait.
Peur de l'ennui ?
Oh, peut-être un peu, mais vous savez, tant qu'on est encore en bonne santé, qu'on peut bouger, et voilà. Bon, après, je pense qu'on reste un petit peu dans le domaine qu'on connaît déjà, c'est-à-dire dans le dos. Et puis, bon, quand on a l'esprit un peu fouineur, l'instinct de la recherche, de l'investigation, je crois que, je ne me serais pas mis à vendre des fromages.
Et vous avez beaucoup de collègues flics qui, après, à la retraite, ne vendent pas des fromages, mais deviennent détective privé.
Ça, je crois que c'est une idée reçue, parce que je regardais justement, ça m'a interpellé quelque part, et il y en a pas tant que ça, en fait, je ne pense pas. Hein. Bon, j'ai pas de statistiques précises, mais je crois que je pense qu'il y a encore 2 ou 3 ans, il y avait peut-être que 20% des agents de recherche privés qui étaient anciens policiers ou gendarmes.
Ah, oui.
Alors, vous allez nous raconter, Jean-Louis Viau, comment vous travaillez. Quelles sont les différences avec le métier de policier? Une planque en solo, tiens, comment ça se passe? Normalement, vous aviez des équipiers, c'est peut-être plus compliqué. Restez avec nous pour découvrir le métier de détective privé.
Ah, quand je dirais ça à ma femme.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Je m'appelle Mike Hammer, je suis détective privé.
La curiosité est un vilain défaut.
Comment ça, vous n'en savez rien? Un building explose, un gosse est tué, tout ce que tu trouves à dire, c'est que vous n'en savez rien.
Jusqu'à 22h.
Calme, Mike. T'es un pro, tu sais bien que c'est pas en 24 heures qu'on va résoudre une affaire d'incendie criminel.
Mais c'est plus qu'un incendie, c'est un meurtre.
Tu vas pas m'apprendre mon boulot, Mike.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Eh bien, dans le studio de la curiosité, nous avons l'homologue français de Mike Hammer. Mike Hammer, détective privé américain avec une moustache, c'est ça?
C'est ça, je me souviens plus du nom du comédien, mais je vois très bien, j'étais fan de cette série. Vous êtes trop jeune pour comprendre.
C'est un peu vrai. Moi, je l'ai lu en BD. Bon.
Voilà.
Nous sommes avec Jean-Louis Viau, qui est détective privé, ancien policier et auteur de Polar, puisque Jean-Louis, vous venez de publier Chantage en poste restante, c'est aux éditions Esneval. Vos filatures de détective privé, c'est ça qui vous a inspiré, qui vous a donné des idées pour vos romans ?
Au risque de vous décevoir, Sidonie, pas du tout. tous mes bouquins sont pure fiction. Alors évidemment, on a l'avantage, c'est que quand on a été policier, quand on écrit, ça évite de faire certaines erreurs qu'on voit parfois dans d'autres livres.
C'est-à-dire que vous avez la justesse c'est plus crédible, vos récits.
On essaie de rester dans la crédibilité, bien sûr. Mais sinon, l'inspiration, non, pas vraiment.
Chantage en poste restante, c'est quand même inspiré d'une, votre dernier roman, d'une de vos affaires, il
pas
me semble.
Pas du tout, Sidonie. Pas du tout. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. De toute façon, vous ne ferez pas...
Vous avez été flic combien de temps?
J'ose pas le dire, ça va me vieillir. 37 ans. 37
donc il y a quelques affaires qui peuvent nourrir vos romans.
Bien sûr. Oui, mais honnêtement, je n'aime pas trop écrire des affaires vécues. Il y en a d'autres qui s'en chargent. Il y a des affaires criminelles, il y a les affaires affaires qu'on voit, qu'on écoute, etc. J'ai pas envie de ça. J'ai envie, ouais, puis moi, j'aime bien inventer des histoires, tout en restant évidemment. Bon, évidemment, quand on écrit, on a forcément l'acquis de ce qu'on a connu, etc. Bon, mais sinon, ça reste de la fiction, quoi.
Alors, 37 années comme policier et 8 ans comme détective privé. 7 ans, c'est ça ? 7 ans depuis 2008. Ouais. C'est quoi la principale différence ? La solitude ?
Alors justement, oui, c'est ça qui est cette marche à franchir, c'est ce pas à franchir, c'est ce phénomène de solitude. Bon, moi je travaille tout seul. Bon, alors évidemment, je ne parle pas de certains de mes confrères où bon, il y a des agences où ils travaillent à plusieurs, etc. Bon, moi je suis tout seul, je suis le détective généraliste de province, je travaille tout seul.
Et dans quelle région vous travaillez ?
Alors, bah, je travaille là où on m'appelle, mais bon, sinon, je suis mon bureau. Mon bureau est basé à eux, à côté du Tréport, pas loin de Dieppe. Et bon, après, ça reste mon point de
point de chute.
Mon point de chute. Bon, après, bon, je me déplace. Bah, la preuve, bon, la Corse, le nord de la France, la Bretagne, enfin là où on m'appelle, quoi. Hein.
Et quand on se retrouve à faire une planque. En solo, il y a parfois de mauvaises surprises.
Alors, il y a parfois des mauvaises surprises, oui, c'est vrai. Oui, alors, pour en revenir quand même, Thomas, pour finir la question qui m'était posée, la différence avec le côté policier, c'est qu'effectivement, quand on est dans la police, on travaille minimum souvent binôme ou avec une équipe. Mmh. J'ai travaillé beaucoup en équipe, surtout dans le domaine judiciaire. Quand on est détective, comme moi, seul, bon ben, il y a des fois, il y a
parfois
des grands moments de solitude. Bah oui, parce que bon, il y a des moments où on se pose la question soi-même, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue là ? Je vais à droite, à gauche ? Est-ce que bon,
qu'est-ce qui vous est arrivé lors d'une planque dans le nord de la France ?
Oh, il m'est arrivé des tas de choses.
Bah, planque en solo.
Oui. Oh, bah, et là, ça fait partie justement des aléas du métier. C'est que, oui, bon, par exemple, partir pour essayer de suivre quelqu'un qui part tôt le matin, faire des kilomètres et des kilomètres pendant la nuit, arriver sur place, planquer pendant des heures, et un relâchement, 30 secondes, une minute, même pas une minute, 30 secondes d'inattention, et d'un seul coup, on relève les yeux, la voiture est partie, et on ne sait pas où elle est passée. Donc, on a fait. Bon, ça fait partie
c'est la difficulté
d'être seul. Vous l'avez rattrapé après le moins souvent possible.
Vous l'avez retrouvé propriétaire de la voiture.
Bon, après
quitte
à revenir le lendemain sur le lendemain, etc. etc.
C'était quoi comme affaire?
Oh, c'était une affaire simple d'adultère. Bah, c'était pas vraiment, on peut pas dire terme d'adultère. C'est en fait, c'est
de flirt.
Non. C'est quelqu'un qui était divorcé en divorce et qui oubliait de signaler dans la procédure de divorce parce qu'il y avait des gros atouts financiers, qui oubliait que c'était remis avec quelqu'un qui était richissime et le mari m'avait chargé de prouver qu'elle avait les moyens, etc., plutôt que de demander à la pension compensatoire qu'elle réclamait.
Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que les histoires d'adultère, c'est plus ça que de prouver qu'il y a un adultère aujourd'hui ?
Oui.
C'est en fait moins de filature de l'amant, quoi, si j'ose dire.
Moi, j'appelle plus ça. Ouais, les adultères, j'appelle ça les infidélités. Bon,
ça arrive au même, ça ?
Oui, mais quand on parle d'adultère, ça fait tout de suite un peu plus juridique, on voit tout de suite à 6h du matin l'huissier qui frappe à la porte, qui vient voir si le lit est encore chaud, voir s'il n'y a pas le type ou la nana dans le placard.
Donc l'infidélité, personne vient voir, c'est ça ?
Alors bon, non, mais bon, ce qui se passe... Ce qui se passe le plus souvent, c'est maintenant, c'est des gens qui veulent prouver que dans le cadre de procédures de séparation, de divorce, que le conjoint ne joue pas le jeu et que cache une liaison durable et un changement de vie.
On vient pas seulement vous voir pour ça, vous êtes détective privé Jean-Louis Viau. On vient aussi vous voir, par exemple, quand on veut retrouver un amour de jeunesse, par exemple. On a en tête, comme ça, des gens qu'on a aimés, et parfois, un moment dans sa vie, on a envie de les retrouver. Vous avez l'histoire de cette femme qui a voulu retrouver son amour de jeunesse de 30 ans. Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme info pour démarrer cette enquête ?
Le point de départ.
Ça fait partie de genre de choses qu'on... Oui, donc c'est une dame déjà d'un certain âge qui me contacte pour me demander de rechercher une amourette d'été, quoi. Bon, et quand elle me dit que ça remontait dans les années 75, quelque chose comme ça, et qu'elle avait jamais revu, évidemment, donc...
Elle se souvenait du prénom, du nom de famille ?
Elle se souvenait seulement du prénom.
Ouf.
Et de quoi d'un signalement, donc de l'époque oui. où elle avait connu. Bon, et elle recherchait, voulait le retrouver tant d'années après, parce que de cette rencontre était né un enfant âgé aujourd'hui d'une cinquantaine d'années.
Mais Jean-Louis Vieux, vous aviez un lieu de départ quand même.
Alors il y avait un lieu. Il y avait elle m'avait donné un endroit où elle avait rencontré ce garçon. Qui était un saisonnier dans un bar-restaurant d'une ville quand même qui est assez importante, ce qui ne facilite pas les choses. Et avec ça, fallait se débrouiller. Donc je l'ai trouvé, mais j'ai eu une mauvaise nouvelle à lui annoncer parce que je l'ai retrouvé. Il était décédé déjà depuis quelques années et enterré. J'ai trouvé l'endroit où il était enterré. Bon, donc voilà. Mais c'est vrai que parfois on part avec très très peu de choses.
Mais au fait, pour mener une enquête, les détectives privés utilisent-ils un matériel spécifique ? Sont-ils, par exemple, forcément armés ? Réponse dans un instant. Restez avec nous dans la curiosité sur RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un détective privé avec un chapeau.
Oui, je ne sais pas s'il y a toujours cette musique là quand vous rentrez dans votre bureau.
Bien sûr,
Jean-Louis
Viau.
Non, pas du tout. Mais alors, justement, je voudrais faire un aparté là-dessus, c'est que effectivement, c'est très sympathique. Quand on parle de détective privé, on pense nécessairement à Nestor Burma, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, etc., Miss Marple, Agatha Christie. Mais le souci,
c'est pas la réalité.
Le souci, si c'en est un, c'en est pas un souci du tout. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec tout ça. On a eu, on a américanisé le terme de détective. En France, un détective, ça reste un détective privé. Aujourd'hui, on les appelle aussi agents de recherche privé, voire de plus en plus enquêteurs privés, justement pour démythifier ce contexte, cette connotation
un peu sulfureuse. Ouais.
Alors justement, on est là pour vous poser plein de questions pour comprendre ce qu'est ce métier. On va quand même dire détective privé parce que c'est plus simple. Donc vous le faites depuis 7 ans. Est-ce que vous êtes armé, tiens ?
Alors pas du tout. Un détective privé est un citoyen comme un autre qui fait ses enquêtes.
Citoyen un peu plus curieux qu'un autre quand même.
La curieuse est un vilain défaut, paraît-il.
c'est interdit.
Alors c'est interdit, bien sûr, comme n'importe quel citoyen. Sont armés les gens qui sont habilités à l'être, les policiers, gendarmes, etc. Les fonctions. Détective privé, encore une fois, c'est un enquêteur privé, qui n'a pas intervenu sur des situations de crise où il aurait besoin d'une arme, il n'a pas à se défendre, même si quelquefois ça peut arriver qu'il soit pris à partie, mais comme tout citoyen.
Est-ce que vous avez une panoplie en tant que détective privé, Jean-Louis Viau? Oui, c'est quoi votre panoplie?
Je l'ai sur moi.
Le blouson de cuir.
La cravate toujours?
Non.
La cravate, venir nous voir, c'est ça?
Alors les panoplies, vous faites bien, Sidonie, de parler de panoplie, parce qu'en fait, panoplie, oui, il y a beaucoup de déguisements, parce qu'il faut éviter d'être reconnu, de changer
Vous avez des perruques, par exemple?
Comment?
Vous avez des perruques, par exemple, Jean-Luc Viau?
Oh, perruque, non, mais il y a toujours de quoi, casquette, chapeau, etc. J'en ai une ou deux, quand même. Ça m'est arrivé d'utiliser une ou deux perruques. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est que, sur une affaire, il fallait que je surveille des marchands de marché, qui étaient des employés qui se déplaçaient sur plusieurs marchés, notamment sur la région, la grande région parisienne. C'était des employés indélicats qui vendaient et oubliaient parfois de mettre l'argent dans le tiroir caisse et ça allait directement dans leur poche. Donc j'avais été mandaté par leur patron. Et donc pour les approcher, une fois je m'étais déguisé en grabataire avec deux béquilles, en vieillard, etc. Et donc je m'en allais vers le marché qui l'étal était juste en face et il fallait traverser une rue. Et là j'ai une vieille dame, mais vraiment une vieille dame qui me prend par le bras et qui me dit: attendez monsieur, je vais vous faire traverser la rue. J'ai eu du mal à garder mon sérieux, mais fallait. Voilà. Alors oui, détective privé, c'est ça, c'est les déguisements, c'est de la surveillance à distance avec des moyens. jumelles, avec...
Des quoi
Des jumelles.
Des jumelles, ah oui, j'ai pas entendu.
bon, enfin, appareil photo, avec téléobjectif, etc., etc. Bon, le matériel...
Non, mais c'est le etc., etc. qui nous intéresse, Jean-Louis
Vieux. Bah, etc., etc., c'est-à-dire, bon, vous savez, les moyens matériels, ça reste quand même relativement simple. Hein. C'est, bon, bah, le téléphone portable, c'est inévitable. Et puis surtout, ben, je vais dire aujourd'hui, le matériel absolument indispensable, c'est l'ordinateur avec donc Internet, avec tout ce qu'on peut aller glaner sur Internet, les réseaux sociaux, bien évidemment, etc. Ils sont des mines absolument.
Par exemple, Facebook, c'est une mine d'informations ?
Bah, bien sûr, comme tous les réseaux sociaux, bien oui, Facebook, bah, c'est pour ça que les gens, ils font pas attention non plus, que bah, c'est ouvert à tout le monde et que, bon, sauf, évidemment, certains prennent des précautions, mais bon, on apprend inévitablement des tas de choses sur Facebook. Hein. Il y a des moments, en enquête, je me demande même s'il y a besoin de se... Enfin, j'exagère en disant ça, mais de se déplacer pour certaines choses qu'on a sur Facebook.
C'est quoi la qualité pour vous indispensable d'un bon détective privé, Jean-Louis Vieux ?
Oh, un bon détective, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui doit être patient. Beaucoup de patience, parce qu'il y a beaucoup de temps de passer en planque, au coin d'une rue, dans la voiture. Bon, c'est beaucoup de patience, en fait.
Être un beau photographe, est-ce que c'est important?
Moi, je suis pas un bon photographe, mais vous savez, avec les moyens, les techniques qu'on a à notre disposition maintenant, moi, j'ai un appareil photo avec un téléobjectif, je mets tout en automatique, tout marche parfaitement bien, ça me suffit. En plus, c'est pas de la photo d'art.
Certes, mais vous avez le droit de prendre n'importe qui en photo. Est-ce que ça peut être une preuve, une photo ?
Ah ben, alors il faut être prudent parce que vous savez qu'il faut, il y a le droit à l'image évidemment. Bon, et puis il faut savoir, il y a quand même une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que un bon détective, puisque si Denis me demandait ce que t'es un bon détective, c'est quelqu'un qui est observateur, qui va chercher les éléments constitutifs qu'il recherche et qui sait les mettre en valeur dans un rapport circonstancié. C'est ça le plus important. Ce qui compte, c'est le rapport. Parce que les photos, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. À la limite, les photos ne sont pas indispensables. Bon, sauf évidemment cas particulier, certaines affaires ou n'importe. Bon, oui, c'est quand même mieux d'avoir des photos. Mais les photos ne sont pas indispensables du tout. Et ce qui, comme vous disiez, c'est il faut faire très attention avec l'utilisation donc de la photo, parce que vous savez qu'une personne, il faut son consentement pour il y a des conditions.
Dans la rue.
Alors, dans les lieux publics, quand c'est dans un angle ouvert dans les lieux publics, il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez au téléobjectif une personne qui est chez elle, à travers mettons qu'il y a de la lumière et que vous faites des photos, bon, bah là, c'est des atteintes à une atteinte à la vie privée, donc il faut être très prudent. Sachant également que tous les moyens illégaux qui seraient employés par un détective ne peuvent pas être pris en compte par la suite par une autorité de justice pour s'en servir pour acter devant une juridiction compétente.
On a encore plein de questions à vous poser.
Tiens, ça coûte cher, par exemple, un détective privé ?
Bah, c'est l'une des questions. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur ce métier.
Vous écoutez RTL.
Monsieur Poirot, je vous sais gré de me recevoir sans rendez-vous.
Je vous en prie, monsieur Hallyday, je vous en prie. En quoi puis-je vous être utile ?
La curiosité est un vilain défaut.
Eh bien, il s'agit de questions d'ordre privé.
RTL.
Écoutez, monsieur Poirot, peu importe le prix, il faut me débarrasser de cet homme.
Monsieur Hallyday, mon métier ne consiste pas à éliminer les gêneurs.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Forcément, on avait une Nestor Burma, Mike Hammer, il nous fallait aussi Hercule Poirot. On vous parle des détectives privés ce soir sur RTL avec Jean-Louis Vieux qui met ses 37 années d'expérience de policier au service de ses clients comme détective. Vous nous avez raconté tout à l'heure une filature cocasse, vous étiez déguisé en vieil homme et puis une dame qui vous aide à traverser, encore plus vieille que le personnage que vous vous étiez créé. Et là, en fait, la filature, l'observation, elle consistait à démontrer qu'il y avait éventuellement une arnaque de salariés envers les patrons. Est-ce que c'est des affaires que vous traitez souvent, ça, finalement, des affaires économiques, si j'ose dire ?
Oui, bah, ça arrive. Souvent, c'est un bien grand mot. Oui, ça fait partie des missions, effectivement, qui reviennent de temps à autre.
C'est les patrons qui vous embauchent dans ces cas-là ?
Bien sûr, oui. Alors, il y a ça, il y a aussi des employés qui sont en congé de maladie de façon récurrente et qui pendant ces
partent aux Bahamas.
Voilà, pas partent aux Bahamas, mais vont travailler en concurrence parfaitement déloyale par rapport à leur patron sur des chantiers qu'ils ont piqués à droite à gauche et au black.
Ça peut agacer.
Ça peut agacer. Donc voilà, bon, ça fait partie aussi. Donc bon, des employés indélicats dans la généralité du terme.
Vous, vous parliez des dossiers que vous préparez basés sur vos observations sur le terrain. Et un dossier comme celui-là, il peut être utilisé ensuite, par exemple, devant le tribunal des prud'hommes.
Des prud'hommes, ou bon, il faut savoir que le rapport d'un détective vaut entre guillemets témoignage et qui est pris généralement pris en compte par les juridictions, donc les juridictions pénales, les juridictions civiles, les juridictions autres,
même devant les assises, ça peut arriver.
Pourquoi pas. Bon.
Vous, personnellement, pardon Sidonie, vous pouvez être appelé à témoigner lors d'une audience ?
Alors, encore faudrait-il que ce soit sur une affaire d'ordre donc criminel qui donne lieu à donc un procès en cour d'assises. Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé dans mon cadre de fonction de détective. Je pense que c'est relativement rare. Mais vous savez, un détective, comme n'importe qui, peut être appelé à témoigner à la demande de la juridiction compétente, hein. Vous savez, bon, que ce soit les assises ou une juridiction quelconque, bon, vous êtes un citoyen, vous savez, même les policiers qui ont participé aux enquêtes sont aussi témoignent aux assises. Vous avez les experts, les médecins légistes, etc. Bon, voilà. Bon, maintenant, moi, j'ai pas d'exemple précis là-dessus puisque j'en ai pas. Et puis, bon,
ça vous est pas arrivé.
Je pense que c'est relativement rare aussi que nous, les détectives, on travaille sur des affaires criminelles qui sont d'ordre pénal.
Est-ce que vous, Jean-Louis Evio, qui détective privé, il vous est arrivé d'utiliser ou d'avoir recours à des indics lors de vos enquêtes?
Alors c'est marrant ce terme d'indic. Bon, enfin, moi j'emploierais ça plutôt du temps où j'étais policier. Bon,
ça veut dire que
des honorables correspondants.
Non, bon, des honorables correspondants, c'est joliment dit.
Détective, on se sert. Là, je vous parlais d'affaires où j'avais besoin de témoignages, etc. Bon, des gens qui peuvent nous amener des éléments, etc. Bon, là, on ne parle plus en termes d'indic, on parle simplement en termes de témoignages.
Bon, une question de mots, on peut changer de mots si vous voulez.
Oui,
vous
la connotation n'est pas la même.
Vous les payez, par exemple?
Pas du tout.
Jamais.
Non.
Vous payez jamais une info?
Non. Non, il n'y a pas de. Non, on cherche.
C'est dans les séries américaines?
Peut-être. C'est possible. Encore, on revient encore, mais on est en France et le détective fait son travail de recherche, d'investigation.
C'est très réglementé. Il y a une déontologie.
Oui. Alors c'est de plus en plus réglementé. C'est très réglementé. Nous avons un Conseil national des activités de recherche privée, qui est le CNAPS, qui a été mis en place, qui est une autorité administrative qui dépend directement du ministère de l'Intérieur. Avant, le détective avait un agrément qui était délivré par l'autorité préfectorale.
Donc vous avez une charte de bonne conduite pour comprendre concrètement?
Oui, alors justement, cet organisme, le CNAPS, est chargé donc de contrôler l'activité des agents de recherche privée, est également chargé du côté disciplinaire et également donc de la mise en place d'un code de déontologie. Effectivement, donc il y a un code de déontologie qui prévoit pour les agents de recherche privée, évidemment, la loyauté par rapport à ses mandants, évidemment, et puis également et surtout le secret professionnel.
Alors, est-ce que c'est du secret professionnel? Je ne sais pas, mais vous n'allez pas échapper à la question sur l'argent. Combien ça coûte un détective privé?
Eh bien, écoutez, ça me fait penser aux personnes qui vous appellent pour vous dire, à peine décroché, vous prenez combien?
Ben oui, mais bon.
Alors, nous, on a attendu la fin de l'interview.
Alors, Thomas, il serait simple que vous me racontiez votre histoire, pourquoi vous voulez me mandater. Et puis, en fonction des éléments que vous allez me donner, de tous les paramètres, on va se rencontrer. Et il est évident que le tarif ne sera pas du tout le même
Vous n'êtes pas payé à l'heure, alors, ça veut dire?
Alors, généralement, oui, évidemment. Évidemment, à l'heure, ça peut arriver, mais c'est très très rare, parce qu'en fait, souvent, ce sont des affaires qui se traitent sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il est bien souvent, moi, en ce qui me concerne, je travaille pratiquement au forfait.
Alors je sais pas, 3 mois de travail sur une enquête, c'est un forfait de combien ?
Ben c'est, donc encore une fois, ça dépend des. Ben il est évident que si vous m'envoyez
d'accord,
deux mois,
pas
trois
la
mois
question.
À Marseille, non mais si vous m'envoyez grave. À Marseille, mais
est-ce que ça vous est déjà arrivé de...
Bien sûr. Parce que, évidemment, faut vous défrayer
les frais.
Et voilà, il y a des calculs à faire.
Les repas, les billets de train.
Donc c'est très difficile.
Jean-Louis Viau, il est gourmand.
Pas du tout.
Non, c'était pour rire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une famille, que des gens que vous avez aidé à retrouver un proche vous donne une prime ou vous remercie encore plus que du forfait prévu?
Non, j'ai eu des satisfactions, le seul fait de les voir contents de la réussite de l'affaire, pour des gens notamment qui recherchaient une autre personne, retrouver des familles, etc. Et bon, mais non, des primes, non, il n'y a pas de... Bon, après, les gens ont payé, etc. Donc, c'est forfait, il n'y a rien d'autre.
D'accord.
Non, pas du tout.
Merci beaucoup, Jean-Louis Viau. Je rappelle qu'en plus de vos enquêtes de détective privé, vous publiez des romans policiers. Le dernier vient de sortir, le titre Chantage en poste restante, et c'est publié aux éditions Esneval. Merci.
Merci.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.